Bonsoir Thomas Dautieu.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur adjoint à la conformité à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et vous êtes avec nous pour parler, alors, pour démêler le vrai du faux, sur toutes les fake news. Alors on a utilisé ce terme, mais évidemment c'était absolument pas le bon, c'est un petit peu excessif. Lié en tout cas à l'entrée en vigueur du très fameux RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Alors il se trouve que ce Règlement Général sur la Protection des données qui nous est enviée dans le monde entier, que le monde entier regarde. Il crée de nouvelles obligations, notamment pour toute une série de personnes morales, institutions, entreprises de toute taille, que la donnée soit ou pas leur cœur de métier. Mais aussi, il instaure de nouveaux droits, en tout cas, il reconnaît de nouveaux droits, notamment aux particuliers. Et avec ce règlement, on fleurit tout un tas d'écosystèmes, d'entreprises qui offrent des services liés à l'entrée en vigueur en mai dernier de ce RGPD. Mais tout ce qu'elles proposent n'est parfois pas pertinent, parfois superflu, parfois ça relève carrément de l'arnaque. Donc on va essayer de clarifier un peu tout ça, mais la première question que j'ai envie de vous poser tout simplement, c'est vous qui êtes directeur adjoint à la conformité à la CNIL, quelle est votre mission dans le cadre de l'entrée en vigueur de ce fameux RGPD ?
Alors, la direction de la conformité, en fait, a en charge d'accompagner tous ceux qui mettent en œuvre des fichiers, que ce soit des responsables publics ou des responsables privés, pour leur expliquer un petit peu les grands principes posés par le RGPD et par la loi Informatique Liberté, et pour décliner dans des cas concrets, dans leur activité, ces nouvelles obligations.
Alors, donc effectivement, vous faites partie des gens qui, justement, aidaient à mieux comprendre et à mieux diffuser. Aujourd'hui, qui vient vous voir pour, justement, essayer de mieux comprendre et de mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place avec ce RGPD ? J'imagine que c'est plutôt des grosses structures. Et qui sont les gens qui sont concernés, à quelles échelles ?
Alors, le RGPD a ceci de plutôt intelligent qu'il augmente les obligations par rapport à la complexité des traitements qui sont mis en œuvre. Donc, ceux qui mettent en œuvre des gros traitements, des gros fichiers, comme par exemple les ministères, le ministère de l'Intérieur ou tout autre ministère, évidemment, ce sont des interlocuteurs réguliers de la direction de la conformité et de la CNIL d'une manière plus générale. Et puis ensuite, on travaille avec les grandes entreprises et avec les têtes de réseau, parce que, évidemment, nous ne sommes pas assez nombreux pour travailler avec l'ensemble des acteurs qui sont soumis au RGPD. Et donc, nous travaillons avec des syndicats, des organisations professionnelles pour faire passer, entre guillemets, la bonne parole et qu'ensuite, celle-ci soit diffusée au plus près de ceux qui mettent en œuvre au quotidien ces fichiers.
Typiquement, aujourd'hui, par exemple, je suis un médecin. Comment je fais pour savoir ? Évidemment, je manipule des données importantes, sensibles, mais c'est pas du tout le cœur de mon métier et j'ai, entre guillemets, autre chose à faire. Comment est-ce que je fais pour savoir ce que je dois faire dans le cadre de ce RGPD ?
Alors, il est évidemment pas concevable de demander à un médecin de lire le RGPD. C'est une centaine d'articles. Il y a des tas d'articles qui vont pas l'intéresser. Donc, on a travaillé avec le CNOM pour publier un guide pratique qui, à travers des fiches concrètes, explique aux différents professionnels de santé très simplement, très concrètement, comment est-ce qu'ils doivent mettre en œuvre leur fichier patient pour le sécuriser, pour informer les patients et pour faire en sorte que ces données soient protégées, puisque c'est l'enjeu même de ce RGPD.
Voilà, en dépit de tous vos efforts de pédagogie, effectivement, la première information qu'on peut donner, c'est de toute façon, qui que vous soyez, allez sur le site de la CNIL qui, en gros, vous aiguille vers ce qu'il vous faut faire. Néanmoins, en dépit de vos grands efforts de pédagogie et de vos nombreux communiqués, il se trouve qu'il y a toute une foule d'entreprises, de cabinets de conseils, de cabinets d'avocats et qui ont investi ce filon. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un écosystème économique qui existe et qui est lié à cette entrée en vigueur du RGPD, avec quand même au milieu de grosses arnaques que vous avez été d'ailleurs les premiers à dénoncer.
Alors c'est vrai que ce RGPD a suscité la création de nombreuses entreprises, plus ou moins sérieuses. Alors il y a des tas d'entreprises qui sont tout à fait sérieuses et c'est très bien, et qui peuvent aider les particuliers à se saisir de leurs nouveaux droits. Et puis, il y a d'autres entreprises qui, en effet, ont senti le filon, ont joué sur un marketing de la peur, puisque l'un des grands aspects du RGPD, c'est l'augmentation du pouvoir de sanction des différentes CNIL et de la CNIL française, et qui ont fait peur un peu aux entreprises en disant « Attendez, le RGPD rentre en vigueur le 25 mai, si vous n'êtes pas totalement conforme, vous serez sanctionné à hauteur de 2 millions d'euros ». Ce qui évidemment n'est pas vrai, la CNIL n'a pas vocation à sanctionner à de telles hauteurs de montants de sanctions des entreprises qui ne seraient pas conformes. Donc il y a un marketing de la peur et puis il y a aussi des arnaques réellement, puisqu'il y a des entreprises, des cabinets de conseil qui ont envoyé courrier avec des logos plus ou moins officiels, y compris d'ailleurs celui de la CNIL, en disant vous devez vous mettre en conformité à telle date, voilà ce que vous devez faire et ça vous coûtera tant. Et évidemment, nous attirons l'attention des entreprises. Alors, le message est passé auprès des PME, je pense qu'elles font attention dorénavant, il faut se concentrer sur les TPE, les toutes petites entreprises, pour leur dire attention, il y a des arnaques, soyez vigilants.
Effectivement, alors comment est-ce qu'on peut faire si je suis une TPE ou une PME pour comprendre ce que je dois faire face au RGPD et pour essayer de regarder à qui je peux faire confiance?
Alors c'est d'abord du bon sens, c'est juste se renseigner sur l'entreprise. L'entreprise qui menace en disant si vous ne réglez pas telle somme pour nos conseils avant 15 jours, 3 semaines, vous serez sanctionné. Évidemment, c'est de l'arnaque. Donc il faut faire extrêmement attention, se renseigner sur qui propose ces prestations, quelles sont ces prestations, si c'est juste l'envoi d'un formulaire ou l'envoi d'un guide, évidemment ça ne suffit pas pour se mettre en conformité avec le RGPD. Et puis, en cas de doute, contacter la CNIL, ne pas hésiter à contacter la CNIL. On est en contact très régulier avec la DGCCRF pour essayer de démonter ce type d'arnaque et, le cas échéant, les porter devant la justice.
Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a toute une série d'obligations et on l'a compris, c'est aussi sur ça que joue ce marketing de la peur de certaines entreprises pas toujours extrêmement pertinentes ou honnêtes. Mais néanmoins, il y a aussi de nouveaux droits qui ont été, entérinés, certains droits d'ailleurs qui existaient depuis assez longtemps en France, mais il y a un nouveau droit, notamment celui de la portabilité des données. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce droit, en quoi il consiste et pourquoi justement lui aussi suscite, disons, l'appétit de nouvelles entreprises ?
Alors, sur le RGPD prévoit un certain nombre de droits, dont certains sont connus en France depuis plus de 40 ans, droit d'accès, de rectification et d'opposition. Et puis, il y a un nouveau droit, en effet, porté par le RGPD, qui est le droit à la portabilité, qui en fait est un droit tout à fait novateur, puisqu'il vous permet d'aller récupérer auprès d'un prestataire les données qui vous concernent et d'aller les porter auprès d'un autre prestataire. Donc vous devez les récupérer, vous pouvez les récupérer sous un format informatisé, directement exploitable, de manière à les réinjecter, entre guillemets, auprès d'un autre prestataire. On voit tout de suite, l'exemple le plus évident d'utilisation de ce type de droit, c'est un réseau social sur lequel vous êtes inscrit depuis 5-10 ans. Vous avez construit une sorte de vie numérique. Et puis, vous voulez changer de réseau social pour des raisons X, Y, Z, peu importe. Eh bien, vous allez pouvoir demander à ce réseau de récupérer les données et de le porter auprès d'un nouveau réseau. Et donc, ça va, on l'espère, créer une saine concurrence et éviter un petit peu des situations de monopole, puisque certains réseaux pouvaient vivre un peu sur un gisement de données qui était relativement assez captif.
On ne donnera pas de nom, mais évidemment, on sait plus ou moins de qui on parle. Mais alors, évidemment, la question qui se pose, c'est moi, aujourd'hui, je voudrais faire ça. Est-ce que je peux le faire directement ? On voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui me proposent de le faire à ma place, auprès d'ailleurs de plusieurs entités. Ça peut être à la fois pour mon opérateur mobile, pour effectivement un réseau social ou pour d'autres sites, un abonnement presse. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça fonctionne vraiment ? Est-ce que les entreprises sont aujourd'hui en mesure d'exercer ce droit, de nous laisser exercer ce droit ?
Alors, certaines entreprises se sont mises en capacité de répondre à ces demandes parce que ça fait partie de leur culture ou parce qu'ils ont les systèmes informatiques qui permettent de répondre à ces demandes. Après, il y a d'autres entreprises qui, en effet, ont peut-être des systèmes d'information un peu plus vieux, qui datent de 10, 15, voire plus années. Et donc là, il y a une période d'adaptation qui va devoir se mettre en place. Et puis, comme vous l'avez souligné, il y a des entreprises qui se mettent sur le créneau.
Des petites start-up, quoi.
Exactement. Qui proposent des services pour aller récupérer les données, les porter auprès d'autres. Il y a des entreprises qui font ça de manière tout à fait professionnelle. Et puis d'autres, ma foi, on verra dans les années qui viennent.
Alors justement, comment est-ce qu'on fait ? Je vous pose la question parce que cet été, sur Twitter, notamment certains internautes très avertis, se sont mis en devoir de tester justement ces petites start-up qui vous proposent de prendre vos données et d'aller les porter ailleurs. Et certains donc ont essayé de faire le test en mandatant une petite entreprise, une petite start-up, pour aller récupérer ces données chez Orange, chez des groupes comme Condé Nast. On n'a aucune réponse. Ils sont assez nombreux, les internautes, à traquer ça. La question est la suivante. Ça vient de qui ? Est-ce que ça veut dire que Orange, Condé Nast, aujourd'hui, n'ont pas encore les moyens, ne sont pas encore intéressés à ça, et pour le moment, n'ont pas tout à fait envie ou les moyens de faire respecter ce droit ? Ou est-ce que ça veut dire que cette petite start-up ne fait pas bien son travail ? Comment est-ce qu'on distingue les deux ?
Alors, honnêtement, à voir, je ne sais pas. Je pense que la meilleure solution à conseiller aux internautes, c'est de saisir la CNIL, puisque chaque internaute peut saisir la CNIL pour faire respecter ses droits. Et puis la CNIL se retournera vis-à-vis des sociétés qui disposent des données en leur demandant « Est-ce que vous avez eu des demandes de portabilité ?» Celles-ci doivent y faire droit Alors encore une fois, si tout n'est absolument pas parfait au jour J, on peut espérer que dans les semaines, voire mois à venir, tout ça va se régler. Et puis si elles n'ont pas reçu de demande, c'est que manifestement tout ça et la faute vient de la start-up, auquel cas la CNIL se retournera vers cette société en disant manifestement vous ne fournissez pas le service que vous proposez.
Une dernière question assez logique, est-ce que vous avez déjà été saisi sur ce type de question depuis le 25 mai, date d'entrée en vigueur de ce RGPD? Vous l'avez dit vous-même, vous l'avez dit quand on préparait cette émission, certains groupes comme Orange, par exemple, existe depuis des dizaines d'années, ont généré d'immenses quantités de données vous concernant si vous êtes un abonné. On peut peut-être pas s'attendre à ce qu'en réalité ils soient tout à fait prêts. Que va-t-il se passer et quel est leur, disons, premier bilan ?
Alors le premier bilan qu'on fait, c'est qu'on a plus de 50% de plaintes en plus en quelques mois. Donc les personnes connaissent leurs droits, se saisissent de leurs droits et l'exercent. Donc quand ça ne marche pas, les internautes n'hésitent pas à nous saisir. Et puis ensuite, nous allons commencer à nous retourner vers les grosses sociétés qui sont le cas échéant mises en cause. Et puis nous allons leur demander très rapidement de se faire en conformité avec le RGPD.
Merci beaucoup Thomas Dautieux. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint à la conformité à la CNIL, et donc merci. Nous suivrons évidemment dans Soft Power le bonheur, le malheur, et en tout cas les évolutions de ce RGPD.
Merci à vous.